Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. L'ambassadeur de la Russie en Centrafrique, Vladimir Titorenko, a annoncé hier que Moscou a livré à titre gratuit une cargaison d'armes légères à la République centrafricaine après en avoir informé l'ONU qui impose un embargo sur les armes à ce pays déchiré par la guerre civile. Depuis 2018, des instructeurs militaires russes entraînent les forces armées centrafricaines et assurent la garde rapprochée du président Faustin Archange Touadéra. Plus de 10 000 personnes ont fui leur village en 48 heures dans l'ouest du Niger en raison des attaques djihadistes répétées contre les civils, ont indiqué hier les Nations Unies et les autorités locales. Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey, les déplacements se poursuivent et des déplacés se dirigent même vers Niamey, la capitale, mais leur nombre n'est pas encore déterminé, s'alarme OCHA. Au Mali, une grève à l'appel de la principale organisation syndicale du pays a paralysé ce lundi les banques et les services publics à Bamako dans un contexte social et politique qui se tend sous les autorités de transition. Selon des correspondants de l'AFP, l'UNTM a brandi la menace d'un mouvement illimité. Une trentaine de dirigeants africains et européens se réunissent ce mardi à Paris avec les grandes organisations économiques internationales à l'initiative de la France pour tenter de sauver l'Afrique de l'asphyxie financière qui la menace après la pandémie. L'Afrique est relativement épargnée sur le plan sanitaire avec 130 000 morts du Covid-19 sur un total mondial de près de 3,4 millions de morts, mais elle en sort financièrement exsangue. La communauté internationale intensifie son offensive pour tenter de faire cesser les bombardements israéliens sur Gaza et les salves de roquettes palestiniennes sur Israël, sans signe d'accalmie après une semaine d'escalade meurtrière. Dans la nuit, les raids se sont poursuivis sur Gaza et le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza a menacé de tirer de nouvelles roquettes en direction de Tel Aviv si l'aviation israélienne ne cessait pas de cibler des civils, tandis que ces roquettes se sont abattues par dizaines sur le sud d'Israël. Depuis le début de ces violences, au moins 221 personnes, en majorité des Palestiniens, ont été tuées. Et en Cisjordanie, le président Mahmoud Abbas a plaidé devant l'émissaire américain Hadi Amr pour une intervention de Washington. Pour sa part, le président américain Joe Biden a exprimé hier soir son soutien à un cessez-le-feu lors d'un nouvel entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et son secrétaire d'État, Anthony Blinken, a assuré que les États-Unis travaillaient 24 heures sur 24 via les canaux diplomatiques à essayer de mettre un terme au conflit. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir une quatrième fois en urgence aujourd'hui, alors que les États-Unis refusent toujours l'adoption d'une déclaration du Conseil appelant à une cessation des violences. Nous y reviendrons avec Nani Talani. Le président Joe Biden a annoncé lundi l'envoi de 20 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 vers des pays tiers, martelant que l'approche des États-Unis était différente de celle de la Chine et de la Russie. Critiqués pour avoir tardé à partager leurs vaccins, les États-Unis ont assuré que le rythme allait désormais s'accélérer de manière significative. Cette annonce porte à 80 millions le nombre total de doses de vaccins promises par la première puissance mondiale depuis le début de la pandémie. La Russie a martelé lundi que l'Arctique était sa zone d'influence et a défendu son droit à la défendre, mettant en garde l'Occident contre ses ambitions dans la zone à quelques jours d'un important forum régional. Le président Joe Biden et son épouse Jill Biden ont gagné un peu plus de $600,000 en 2020, selon la déclaration d'impôts qu'ils ont rendue publique lundi, renouant ainsi avec une tradition interrompue par son prédécesseur Donald Trump, qui a refusé de se plier à cet exercice de transparence pendant son mandat. La suite de nos informations, un millier de migrants, dont 300 mineurs, sont parvenus lundi à atteindre l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc voisin. Il s'agit d'un record pour une journée, selon les autorités. Abdourahmane Dia.
Les premières arrivées ont eu lieu dans la matinée de lundi, alors que ces migrants avaient quitté dans la nuit des plages situées à quelques kilomètres au sud de Ceuta, selon un porte-parole de la préfecture. Une fois sur le territoire espagnol, ils ont été interceptés alors que d'autres migrants continuaient d'arriver en début de soirée. Certains ont utilisé des bouées gonflables, d'autres des canots pneumatiques et d'autres encore ont marché là où la mer s'était retirée, a précisé le porte-parole de la préfecture. Fin avril, une centaine de migrants avaient déjà rejoint à la nage Ceuta depuis le Maroc durant un week-end par groupe de 20 à 30. La majorité d'entre eux ont ensuite été expulsés vers le Maroc. Ces arrivées de migrants depuis le Maroc à Ceuta interviennent dans un contexte de tensions diplomatiques entre Madrid et Rabat. Le Maroc, allié clé de Madrid dans la lutte contre l'immigration illégale, a convoqué fin avril l'ambassadeur espagnol à Rabat pour exprimer son exaspération à l'égard de l'accueil en Espagne pour y être soigné du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali.
Les pays du G7 et des membres de l'Union européenne seraient en mesure de donner plus de 150 millions de doses de vaccins anti-Covid à des pays défavorisés. Selon l'UNICEF, c'est pour tenter de combler en partie l'inégalité vaccinale face à la pandémie. Rosine Munizero fait le point.
Son nombre pourrait être atteint si le groupe des 7 pays les plus riches du monde et des membres de l'Union européenne partageaient seulement 20% des volumes à leur disposition en juin, juillet et août, selon une étude menée par Airfinity. Les vaccins anti-Covid continuent à faire cruellement défaut faute de production suffisante et le système international COVAX est très loin du compte. Il devait assurer une immunisation de 20% des populations des pays participants d'ici la fin de l'année. Pour les partisans du partage, ce n'est pas seulement un impératif moral que les pays pauvres puissent vacciner leur personnel soignant et leurs populations les plus vulnérables. Une forte circulation du virus, où que ce soit, faute d'immunisation, pourrait donner naissance à des variants plus contagieux, plus mortels et peut-être résistants aux vaccins actuels, réduisant à néant les efforts déjà consentis. En dépit de cette menace, il manquera approximativement en juin 190 millions de doses au système COVAX par rapport au volume initialement prévu.
Les États-Unis se sont opposés hier, pour la troisième fois en une semaine, à l'adoption d'une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien, qui appelait à une cessation des violences et à la protection des civils, notamment les enfants, selon des diplomates. Le point avec Nani Talani.
Les États-Unis se sont opposés hier, pour la troisième fois en une semaine, à l'adoption d'une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien qui appelait à une cessation des violences et à la protection des civils, notamment les enfants, selon des diplomates. Les États-Unis ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas soutenir pour le moment une expression du Conseil de sécurité, a dit un diplomate. Le projet de texte rédigé par la Chine, la Tunisie et la Norvège exprimait la grave préoccupation du Conseil face à la crise et dénoncer les possibles expulsions de familles palestiniennes à Jérusalem-Est, appelant à éviter les actions unilatérales qui aggravent les tensions. La déclaration saluait aussi les efforts internationaux pour une désescalade et réitérait le soutien du Conseil de sécurité à une solution négociée en faveur de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix dans des frontières reconnues et sécurisées. C'est la troisième fois en une semaine que l'ONU s'est réunie en urgence sur le conflit sans parvenir à une position commune. Premier soutien d'Israël, Washington, isolé, avait expliqué lors des deux premiers rejets qu'un texte serait contre-productif vis-à-vis de ses efforts de médiation dans la région. Le refus des États-Unis d'accepter une position unie de l'ONU suscite l'incompréhension de leurs partenaires. Lors d'une conférence de presse à Copenhague hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, tout en demandant aux deux parties de protéger les civils et les enfants, a assuré ne pas faire d'obstacle à la diplomatie, comme l'on a accusé la Chine.
La Minute Éco, John Linden.
Les passagers en provenance de la Guinée sont désormais exemptés des mesures restrictives imposées par les États-Unis. Ces mesures qui compliquaient le voyage des Guinéens vers les États-Unis consistaient notamment à la collecte et à la transmission des coordonnées des passagers qui se trouvaient en Guinée dans les 21 jours précédant leur arrivée aux États-Unis, avec une injonction faite à tous les vols transportant des passagers au départ de la Guinée de n'atterrir que dans un ensemble limité d'aéroports américains. Selon Financial Afrique, la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement viennent de lancer plusieurs études de faisabilité sur le secteur industriel. Objectif, accompagner le développement industriel de la première puissance économique de la zone franc-ouest africaine. Le projet nécessite un don de 357 000 dollars américains issus des ressources du Fonds d'assistance technique pour les pays à revenus intermédiaires de la Banque africaine de développement. La durée de mise en œuvre du projet est de 2 ans. Bruxelles et Washington ont annoncé lundi dans un communiqué le lancement des discussions pour résoudre le problème des surcapacités mondiales d'acier et d'aluminium, ce qui permettrait à terme d'élever les droits de douane punitifs qu'ils s'imposent mutuellement depuis 3 ans. L'ex-président américain Donald Trump avait décidé à la mi-2018 d'appliquer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium des Européens qui ont répondu en taxant divers produits américains comme les jeans, les motos ou encore le bourbon.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite des matchs de poule de la première journée de la Basketball Africa League qui se joue à Kigali au Rwanda, le groupe B entre en lice aujourd'hui. Les Angolais de l'Atlético Petro de Luanda font face au Bamako de l'AS Police dans la première rencontre. Dans le second match, les Camerounais de FAP se mesureront aux Marocains de l'AS Salé qualifiés d'office pour cette balle alors que leurs concurrents ont dû passer par les tournois qualificatifs hier. Dans le groupe C, les Sénégalais de l'AS Douane ont ouvert leur campagne dans cette compétition avec une impressionnante victoire à 94-76 contre le groupement sportif des pétroliers d'Algérie, grâce notamment à l'intraitable Mamadou Lamine Diop qui a frôlé le double-double avec ses 18 points, 9 rebonds et 3 passes décisives. Dans l'autre match du groupe C, le Zamalek d'Égypte a survécu à une attaque furieuse des Mozambicains du Ferroviário de Maputo au premier quart-temps pour finalement enregistrer sa première victoire, 71-55 dans la Kigali Arena. Très belle opération également pour les Tunisiens de l'US Monastir qui se sont autoritairement imposés, 113-66 devant GNBC de Madagascar. Cyclisme, et nous prenons la direction du Bénin. Le 16e tour cycliste international se poursuit aujourd'hui avec la deuxième étape qui se court ce matin entre Tukuntuna et Djungu, 100 km. Hier, le Burkinabé Paul Dumont a remporté la première étape courue entre Djougou et Boukoumbé, 123 km. Athlétisme, le marathon de New York annulé en 2020 pour cause de pandémie aura bien lieu cette année, le 7 novembre marquant sa 50e édition, a annoncé le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. L'événement pourra accueillir quelque 33 000 coureurs, soit 60% des 53 000 participants enregistrés en 2019, a indiqué le gouverneur. Les inscriptions ouvriront formellement le 8 juin, l'annonce du retour du marathon qui se termine à Central Park. Après avoir traversé le célèbre pont new-yorkais, intervient alors que New York lance en juillet une grande campagne pour relancer le tourisme. Avant la pandémie, le marathon de New York, créé en 1970, attirait chaque année plus de 250 000 touristes pour un impact économique évalué à 415 millions de dollars en 2015. Bienvenue à vous, chers auditeurs, VOA Afrique au cœur de la Basketball Africa League. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain.
VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres sont diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pouvez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer, à vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La RDC a commémoré ce lundi 17 mai l'arrivée au pouvoir de l'ADFL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo et les FARDC, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Un anniversaire qui coïncide avec l'instauration de l'état de siège dans la partie est du pays pour lutter contre l'insécurité dans cette région. Précision de notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba.
La journée nationale des FARDC est célébrée chaque 17 mai pour rendre hommage aux forces armées du pays. Cette date rappelle le 17 mai 1997, lorsque les forces rebelles sont entrées dans Kinshasa et mis fin au règne des 32 ans du maréchal Mobutu. Cette année, cette célébration intervient dans un contexte d'état de siège instauré à l'est du pays en vue de mettre un terme aux tueries dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette année, un défilé a été organisé à la place du soldat congolais situé au rond Point Forescom à Kinshasa Gombe. Les célébrations ont eu lieu aussi dans la ville de Lubumbashi et dans le Haut-Katanga. Lors de la cérémonie au mémorial du soldat congolais hier à Kinshasa, le premier ministre Samalou Kondé a rappelé aux hommes en uniforme la volonté du gouvernement congolais d'instaurer la paix sur toute l'étendue de la RDC.
Je voudrais vous dire toute l'admiration que nous avons pour votre engagement sacré. Votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer vos conditions de vie et celle de vos familles. Comment est venu pour nous de gagner la paix?
Le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général Célestin Mbala, affirme qu'il compte sur le soutien de la population pour la réussite de l'état de siège.
Le succès de l'état de siège dépendra essentiellement d'abord de notre propre prestation et ensuite du soutien de la population. Pour cela, il est exigé de tout militaire et policier congolais une attitude républicaine, notamment la loyauté.
Pour les journalistes et Martial Bendelo, il faut que l'État déploie les moyens nécessaires s'il tient à la réussite de cette opération.
Ça fait maintenant près de deux semaines ou presque depuis que l'état d'urgence a été décrété, mais rien n'a suivi comme moyen pour effectivement mettre en application cette mesure du chef de l'État, qui est une mesure extrême.
Cette journée du 17 mai marque également la révolution des musées Laurent Désiré Kabila qui a conduit à la chute du maréchal Mobutu en 1997 après 32 ans de règne. Pour Carlos Mopili, ancien soldat rebelle qui a servi sous Musée Laurent-Désiré Kabila, après la FDL, l'armée congolaise s'est reconstruite avec pour mission de rétablir la paix.
Après la FDL, on a conçu une armée avec une arme idéologique qui est lutter contre les forces prédatrices, c'est-à-dire lutter contre les occupants, contre les appétits prédatrices hégémoniques. Voilà aujourd'hui, c'est pourquoi on combine la révolution et les forces armées congolaises.
Il y a donc lieu de rendre un hommage mérité aux forces armées de la RDC en ce jour qui leur est dédié. Martial Bendelo.
Ce jour où nous célébrons les FARDC et la révolution, il est de notre devoir de rendre les hommages mérités aux forces armées de la République démocratique du Congo qui travaillent aussi, vous le savez, dans des conditions très déplorables, difficiles.
Il est à noter que plusieurs actions sont initiées par le gouvernement congolais et la population en soutien justement aux FARDC. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Gabon, des milliers de retraités et des jeunes diplômés en attente d'intégration à la fonction publique s'impatientent face à la lenteur administrative. Leurs dossiers piétinent dans les circuits de l'administration publique. Parmi leurs revendications, le paiement des rappels de pension et l'octroi de postes budgétaires pour les fonctionnaires. Le sit-in du mouvement social des travailleurs vaillants du Gabon, prévu ce lundi devant les services de la primature, n'a pas été autorisé. Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
présent à ce rassemblement qui s'est déporté à quelques pas de la primature. Sylvain Obian fait partie de la promotion 2015 du ministère de l'Habitat. Comme beaucoup d'autres jeunes diplômés de son école, il attend son intégration à la fonction publique depuis 6 ans.
C'est qu'on nous a voulu. On nous a pas dit qu'après ça, j'avais d'aller chercher l'emploi. On nous a dit chacun, on devait tous être intégrés par la fonction publique. Et bien avant nos promotions, d'autres promotions qui ont eu à faire ça, on était tous bien intégrés.
Une situation que partage aussi Christ Mouziegou, jeune diplômé sans emploi. Il vit encore chez ses parents.
J'ai 35 ans, mais je suis chez mes parents. Je suis chez mes parents. Et c'est. En fait, je dors dans la chambre de mon petit-fils. Donc, imaginez-vous un peu la situation. On ne peut pas avoir une copine comme ça. On ne peut pas avoir des amis où on ne peut pas inviter personne à la maison. Parce qu'à chaque fois, il y a tout le monde. Donc, on ne vit pas la vie qu'on a de vivre à cet âge-là.
Être en attente de recrutement à la fonction publique est une difficulté à gérer par des responsables de famille qui espèrent un retour sur investissement de leurs enfants. Le témoignage de Clément Manganga, lui-même retraité.
Nous, les mêmes maltraités là, qui encadrent encore ceux qui sortent de les sautés écoles, qui ont des diplômes, des licences et tout dans les maisons. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Où va le Gabon? Nous posons des questions. Hein, c'est nous qui avons fait ce Gabon de ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont les anciens, hein, les professeurs, les militaires, les machins, tout ça, les meneurs. Si nous subissons ce sort-là, les enfants qui reçoivent des écoles, tout ça, là, ils sont en train de voir. Et c'est pas sérieux.
Selon le président du mouvement social des travailleurs vaillants, les dossiers des pensions retraite pour les ayants droit et les diplômés des grandes écoles dont les postes budgétaires sont bloqués étaient censés aboutir en avril dernier. C'était pourtant une promesse du gouvernement.
On n'a pas traité des questions en rapport avec l'arrimage des pensions retraite des retraités gabonais, de la revalorisation des pensions des fonctionnaires gabonais, de l'agent public civil et militaire gabonais. On n'a pas traité des questions en rapport avec le paiement de leur appel sol, le paiement des services rendus. On n'a pas parlé des problèmes de tous ceux-là qui doivent faire l'objet de recrutement à la fonction publique, qui ont signé les fiches bleues.
Après le rendez-vous manqué d'avril dernier, nouvelle date et nouvel espoir pour les retraités et les jeunes diplômés. Dès août prochain, les services compétents du ministère du Budget promettent de régler ces situations au cas par cas, d'après les sources officielles. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
Un tiers de la population américaine est vaccinée contre le COVID-19 et un quart dit ne pas envisager de le faire dans l'avenir. La semaine dernière, les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis ont annoncé que les personnes entièrement vaccinées pouvaient se passer de masques, à quelques exceptions près. Un reportage de Michel Quinn, relaté par Nathalie Barge.
Les Américains sont partagés sur les conseils des centres de contrôle et de prévention des maladies, selon lesquels les personnes vaccinées contre le coronavirus peuvent, pour la plupart, se passer de masques à l'extérieur comme à l'intérieur. Selon la directrice des CDC, Rochelle Walensky, ces directives portent sur la responsabilité individuelle. L'objectif n'est pas de retirer les masques à grande échelle, mais que chaque personne prenne sa santé en main. Pour les non-vaccinés, les orientations n'ont pas changé, précise-t-elle.
S'ils sont vaccinés, ils sont sans danger. S'ils ne sont pas vaccinés, rien n'est sûr. Ces derniers devraient toujours porter un masque, ou mieux encore, se faire vacciner.
La semaine dernière, le président américain Joe Biden, apparaissant sans masque aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris, a décrit les nouvelles directives comme un grand pas pour les États-Unis. Mais plusieurs responsables de la santé publique ont critiqué ces directives comme étant trop brusques et déroutantes, car on ne sait pas qui est vacciné. Certains détaillants ont abandonné l'obligation de porter le masque pour les clients vaccinés. D'autres préfèrent maintenir leurs règles, car des syndicalistes de l'alimentation et de la vente au détail estiment que les nouvelles directives des CDC pourraient mettre les employés en danger. À ce propos, Madame Walensky recommande la vaccination pour les employés des supermarchés.
Ce que nous demandons aux entreprises, alors qu'elles commencent à réfléchir à nos conseils et à ce que cela signifie pour leur lieu de travail, c'est de faciliter les congés payés de leurs employés pour se faire vacciner.
Certains États et entreprises encouragent les gens à se faire vacciner en offrant par exemple des trajets en train gratuits, des pintes de bière ou même de l'argent. Mais ils ne sont pas tous prêts à assouplir leurs règles et les masques et la distanciation sociale sont toujours nécessaires dans les avions et autres transports publics. Les nouvelles directives des CDC ont relancé la discussion sur une carte de vaccination qui permettrait aux entreprises et autres organismes de savoir qui est vacciné et qui ne l'est pas. L'administration Biden a déclaré qu'elle ne créerait pas de passeport national pour les vaccins.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La mort de Francis Ducreux a affecté le Mali à travers sa fédération de cyclisme. Ducreux prenait régulièrement une part active dans l'organisation des Tours du Mali. Pour en parler, notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, a échangé avec le président de la Fédération malienne de cyclisme, Amadou Togola.
La disparition de Francis Ducreux est un coup dur pour le cyclisme africain, a indiqué Amadou Togola, président de la Fédération malienne de cyclisme.
Je le disais quelques jours avant sa mort que vraiment le jour où Ducreux ne sera pas là, je ne sais pas comment certains pays vont s'y prendre, comment les tours vont s'y prendre.
La dernière implication physique de Francis Ducreux dans l'organisation du Tour du Mali remonte en 2004. Et depuis, c'est à distance qu'il appuyait et conseillait la Fédération malienne de cyclisme dans l'organisation des tours. Selon Amadou Togola, ce rôle à la fois de technicien et de manager a été pleinement joué par Francis Ducreux pour la réussite des tours du Mali.
Quand il y a l'organisation d'un tour, déjà, c'est vraiment un pas parce que tout ce que vous faites dans votre pays comme organisation de courses cyclistes, si c'est pas couronné par le tour, je sais que ça va rester comme dans un vase clos. J'ai connu le tour du Mali à travers Francis Ducreux. Et donc, je peux dire que la relance du tour du Mali, c'est Francis Ducreux. Évidemment, il cherchait des partenaires parce que le tour, c'est un truc très cher.
L'organisation d'un tour dans un pays en crise, comme c'est le cas actuellement au Mali, est un défi.
L'organisation d'un tour, c'est vraiment donner une bonne image au pays. Parce que cette année, la caravane qui a traversé les différentes villes et villages, dans certains pays, on croirait qu'on ne pourrait pas circuler au Mali. Mais nous avons montré la preuve que vraiment, on peut bien circuler au Mali. Et si l'année prochaine, on organisait le tour du Mali pour faire une étape à Mopti, mais les gens vont être ébahis. Ils vont dire que mais comment cela est possible?
Pour le président Amadou Togola, le cyclisme se porte bien au Mali, malgré quelques difficultés.
C'est de pouvoir pérenniser le tour du Mali. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les autres difficultés, vous savez, les matériels de cyclisme coûtent très cher. Aujourd'hui, le cyclisme de dernière génération, nous allons dans les 25 millions de vélos. En 2019, nous avons reçu des vélos et des pièces de rechange d'une valeur de plus de 100 millions avec l'Union Cycliste Internationale. Même si cela n'est pas donné aux Maliens, si nous avons des vélos de 10-12 millions à travers l'UCI, je pense que c'est très important.
Cette autre difficulté est relative à l'inexistence d'un centre de formation.
L'Union Cycliste Internationale est en train de voir comment faire un centre satellite en Afrique de l'Ouest. Mais pour le moment, c'est un projet, ce n'est pas encore effectif. Mais chaque fois que nous avons besoin de formation, c'est l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, qui envoie des experts pour nous appuyer. Il n'y a pas de centre proprement dit en Afrique de l'Ouest.
En attendant, Francis Ducreux est parti. Dors en paix. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la nouvelle montée de tensions au Moyen-Orient. Entre bombardements intensifs de l'aviation israélienne sur Gaza et des tirs de roquettes sur l'État hébreu, la communauté internationale s'inquiète sans toutefois être en mesure de se faire entendre. Cette dernière crise remet sur la table la question des expulsions de familles palestiniennes à Jérusalem-Est et les constructions israéliennes en Cisjordanie. Avec nos invités, nous analyserons cette crise entre Palestiniens et Israéliens, ainsi que ses implications régionales et internationales. Ce sera ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Believe that you would have believed me.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebugia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.